Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette saison, je te propose aussi un épisode bonus chaque vendredi. Il sera composé soit d'une parole d'expert sur le sujet abordé le mardi, soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Il y a quelques temps, en scrollant sur Instagram, je suis tombée sur une story de Nadège qui m'a interpellée. Elle y parlait de la sélection de films qu'elle avait vérifiés au préalable afin de savoir si elle pouvait ou non les proposer à ses filles, toutes deux hypersensibles. Et ça m'a donné envie de sensibiliser le public à l'hypersensibilité. Parce que moi aussi, je sais ce que c'est de devoir sélectionner les films, les livres, qui pourraient heurter ma toute petite. Je sais aussi quels sont les films et les livres que je suis capable d'encaisser ou non. Et c'est trop souvent banalisé. Pointé comme une faiblesse, alors que lorsqu'on comprend son fonctionnement, ça peut aussi être beau et magique. Dans l'imaginaire collectif, l'hypersensibilité s'apparente au fait de ressentir les émotions, joie, tristesse, colère, plus intensément. Mais c'est tellement plus que ça. Nadège le connaît bien, le sujet de l'hypersensibilité, et pour cause, elle le vit au plus profond de son âme. Et quand elle a découvert que ses filles avaient le même système de ressenti, il était évident pour elle de tout faire pour s'adapter. Dans cet épisode, Nadège nous raconte son quotidien d'hypersensible, nous parle de ce qu'elle a mis en place pour accompagner ses filles dans cette particularité. Bref, elle nous emmène dans un monde où les émotions et les ressentis ont toute leur place. Et ça fait du bien. Tu penses être seule à galérer? Mets tes écouteurs et prenons un café. Salut Nadège, bienvenue sur Prenons un café.
Bonjour Élise, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui.
Mais écoute, je suis ravie de te recevoir et de d'échanger avec toi. Moi, je te suis sur les réseaux depuis un petit moment, je crois. Maintenant, je ne saurais même pas dire depuis quand. Donc, tu fais partie de mon paysage virtuel quotidien, on va dire. Donc, je suis contente. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et nous parler un peu de toi, s'il te plaît?
Alors oui, sachant que c'est pas un exercice toujours très simple pour moi. Donc je suis Nadège, je suis maman de deux filles qui ont aujourd'hui 6 et 9 ans. Je suis infirmière puéricultrice de profession depuis une dizaine d'années maintenant. Donc j'ai essentiellement travaillé en milieu hospitalier et 2 années aussi en milieu extra-hospitalier. Je suis depuis 1 an et demi, on va dire maintenant, totalement à mon compte, donc en tant qu'infirmière puéricultrice indépendante. Donc, je propose des consultations pour les familles qui le souhaitent. Et je suis donc également professeure de yoga pour enfants. Donc, je propose des relaxations, des méditations personnalisées ou non. Et depuis peu, puisque c'est juste depuis le mois de septembre 2021, je suis l'autrice du livre « Partager le meilleur avec mon enfant » qui est paru donc aux éditions Erol, qui est mon 3e bébé, disons-le clairement. Et voilà, donc comment est-ce que je peux résumer un petit peu tout ça? Et effectivement, après, je suis très présente, comme tu le disais, sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, sous le pseudo « Un amour au naturel ».
Mais félicitations aussi pour ce livre, je l'ai vu passer un petit peu, c'est vraiment un chouette projet, en tout cas tu as l'air d'y avoir mis du cœur et comme dans à peu près tout ce que tu fais, j'ai l'impression, donc c'est trop chouette. Je vais commencer par te poser la question traditionnelle de Prenons un café. Est-ce que Nadège, tu as toujours voulu être mère?
Alors je pense que je peux répondre un grand oui, vraiment depuis... Alors, si je dis enfant, ça fait peut-être bizarre, mais en tout cas, au moins adolescente, ouais, je me suis toujours vue maman. Et vraiment, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours effectivement voulu avoir des enfants et je m'étais dit que je les aurais jeunes. Bon, au final, je les ai eus plus tard que ce que je m'étais imaginé. Mais vraiment, je me suis toujours projetée en tant que maman et... Le fait d'avoir effectivement au moins 2 enfants, parce que moi je suis fille unique et je sais que c'est quelque chose qui a été un petit peu difficile pour moi, même si ça a beaucoup de bons côtés aussi. Et du coup, je me suis toujours dit voilà, que j'aurais une fratrie en tout cas. Voilà.
Ouais, quand tu disais fratrie, tu imaginais 2 ou alors tu en imaginais encore plus?
Non, alors j'imaginais pas.
Mais parce que parfois on a
6
ça enfants. Aussi, tu vois.
Oui, non, j'en imaginais deux ou trois.
Ok, mais tu es comblée parce que tu es maman de deux filles. Quel âge elles ont ?
Elles ont 6 et 9 ans.
Ah, elles sont des grandes maintenant.
Oui, ça passe vite.
Oui, c'est ça, ça passe hyper vite. Quand tu as rencontré ton amoureux, donc qui est le papa de tes filles, est-ce que c'est quelque chose que tu as exposé très vite ou pas, ce désir d'être mère ?
C'est une très bonne question. Je ne sais pas du tout. Je dirais que c'est quelque chose, oui, dont on a toujours plus ou moins parlé. On s'est toujours projeté avec des faux enfants. C'est-à-dire que des fois, on était dans la voiture et on imaginait qu'on avait nos enfants à l'arrière et qu'on leur parlait. Enfin, voilà, on faisait nos petits sketchs, nos petites scènes à nous. Mais je pense qu'on était très loin d'imaginer à ce moment-là ce que c'était que la réelle vie avec des enfants.
Mais je crois que quand on n'est pas parent, notre imaginaire ne va pas aussi loin que la réalité et c'est pas possible en fait de l'imaginer finalement tant qu'on l'a pas vécu. Moi, je t'ai demandé de participer à Prenons un café pour une raison. Je voudrais qu'on parle d'hypersensibilité ensemble parce que je sais que tu es concernée par le sujet pour toi. Tu es hypersensible et je sais pas si c'est une de tes filles ou si ce sont les deux qui sont concernées. Mais j'avais envie de revenir là-dessus avec toi et notamment sur différents prismes. Donc toi, ta parentalité en tant que parent, maman hypersensible et aussi en tant que maman d'enfant hypersensible parce que je pense que c'est important. On n'accompagne pas un enfant hypersensible de la même façon qu'on accompagne un enfant qui ne l'est pas. Et on n'est pas parent non plus de la même façon quand on est hypersensible quand on ne l'est pas. Je voulais savoir, toi, à quel moment tu t'es rendu compte que tu étais hypersensible ?
Alors, je pense que déjà depuis toujours, je me suis toujours sentie et trouvée différente dans mon comportement, dans ma façon d'être, dans mes relations aux autres, avec les autres enfants. Enfin, vraiment, là aussi, tu vois, j'ai des flashs, on va dire, du primaire, par exemple. J'en ai pas de la maternelle, mais j'en ai du primaire. Et où vraiment, j'avais cette sensation de pas raisonner comme les autres. En fait, quand il y avait une situation qui était vécue dans la cour de récréation, j'avais vraiment cette impression-là de la vivre de façon complètement à part, de façon complètement extraterrestre. Et à chaque fois, je me disais, de toute façon, encore une preuve que je ne suis pas comme les autres. C'est vraiment cette phrase-là, je ne suis pas comme les autres. Au final, j'ai envie de dire que j'ai appris à vivre comme ça et c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Et il y a quelques mois, années, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment assez récent, là, dans les 2-3 ans et qui viennent de s'écouler. Donc, j'ai découvert plus particulièrement, effectivement, ce qu'était l'hypersensibilité, notamment grâce à tout le travail d'Élodie Crépel sur Instagram et toutes les notions qu'elle apporte par rapport à tout ça. Et d'ailleurs, j'ai eu son atelier justement sur l'hypersensibilité que j'ai trouvé très intéressant. Et en fait, je pense que c'est vraiment tous ces travaux et de suivre son travail qui m'a fait prendre conscience que c'était peut-être ça. Et ensuite, effectivement, j'ai fait le test qu'il y avait sur son site internet et qui est revenu positif, en tout cas dans ce sens-là, et qui est venu confirmer ce que je pensais du coup depuis que je suivais son travail. Et pour moi, c'était important de faire ce test-là, que tout le monde peut faire pour le coup, parce que moi, ça m'a permis de poser un mot sur, entre guillemets, cette façon d'être, mais aussi de me rendre compte que j'étais pas la seule à être comme ça et que même si jusque-là, j'avais eu ce sentiment d'être différente, au final, je suis pas si différente que ça puisqu'il y a d'autres personnes qui sont également hypersensibles.
Oui, c'est ça. C'est que tu étais peut-être différente des personnes qui t'entouraient. Par exemple, tu disais à l'école primaire, tu étais peut-être différente d'eux, mais dans tous les cas, il y a forcément à un moment quelqu'un qui te ressemble et quelqu'un qui ressent les choses comme ça. Du coup, ton hypersensibilité, quand tu as vraiment mis un mot dessus, tu étais déjà maman. Tu étais déjà maman depuis un petit moment, puisque tu dis que c'était il y a pas très longtemps. Parce que, du coup, c'est délicat de te poser la question, mais bon, pourquoi pas. Est-ce que tu as l'impression d'avoir vécu une grossesse, ou deux grossesses pour le coup, de façon différente parce que tu avais cette hypersensibilité-là ?
Tu veux dire entre le moment où j'ai su ?
Non, toi, dans ton quotidien, est-ce que... tu vois, la grossesse, en fait, c'est quand même un moment particulier. C'est un moment qui chamboule pas mal, autant physiquement que psychiquement. Est-ce que toi, ça a exacerbé ce côté hypersensible ou pas? Est-ce que ça n'a... Ou comment tu as eu cette sensation de grossesse? Comment tu as eu ce lien avec ton bébé? Comment ça s'est passé?
Alors moi, j'ai toujours aimé être enceinte. Donc ça, c'est vraiment... Je sais que voilà, c'est loin d'être le cas de tout le monde. Maintenant, moi, mis à part les nausées que j'ai pu ressentir vraiment au tout début, on va dire les premières semaines, sinon j'ai toujours beaucoup aimé sentir mon enfant bouger, entrer en contact avec lui. Donc je pratiquais également l'aptonomie, donc c'était vraiment ce côté d'être en relation avec mon enfant et d'entrer en relation avec lui le plus possible. Je sais que voilà, j'ai pris des cours, j'ai perdu le mot, mais quand on va à la piscine pour faire les cours exprès pour les femmes enceintes, là c'est pareil, ça la faisait beaucoup réagir, etc. Donc c'est vraiment, ça a toujours été vraiment un bonheur et un plaisir. J'ai pas vraiment eu de désagrément, si ce n'est pour ma première grossesse. Mais je pense que là, c'était vraiment un cas particulier dans le sens où j'ai appris quand j'étais enceinte que j'avais un mélanome, donc un cancer de la peau.
D'accord.
Donc là, voilà, il y a eu tout un côté vraiment très stressant par rapport à ça, la peur de perdre mon bébé, etc. Ou, enfin, bon, bref. Donc là, il y avait ça qui était particulier, mais sinon... J'ai pas l'impression que ça ait changé quelque chose en moi, voilà.
D'accord. Tu ne posais pas à l'époque de mots sur l'hypersensibilité. Pourtant, t'es devenue maman d'enfants hypersensibles puisque ce sont les deux ou c'est qu'une seule qui l'est?
Alors, elles sont complètement différentes. Ma fille aînée, c'est sûr, elle l'est. Et ma seconde, je pense qu'elle l'est. Juste, elle le vit encore différemment, mais je pense qu'elle l'est aussi.
Sans mettre de mots sur ton hypersensibilité, au départ, quand tu es devenue mère, est-ce que tu as constaté chez tes enfants qu'il y avait une façon de ressentir les choses qui était peut-être similaire aux tiennes très tôt ou est-ce que c'est venu plus tard?
Alors, je dirais qu'avec ma fille aînée, c'est vraiment venu assez tôt. Enfin, en tout cas, même bébé, enfin, elle était vraiment très éveillée avec cet œil et ce regard vif. Enfin, tu sais, avec cette sensation qui... Vraiment, ils captent tout, ils comprennent tout. Alors, je suis bien d'accord, hein, tous les bébés comprennent, ou en tout cas ressentent bien les choses. Mais là, j'avais l'impression vraiment qu'il y avait autre chose encore qui se passait et qu'effectivement, en tout cas, elle était vraiment très sensible à tout ce qui était bruit, lumière, son et du coup, enfin, toutes les stimulations auditives, sonores, visuelles, extérieures. Et c'est vrai qu'au début, nous, on vivait quand même pas mal dans une sorte un peu de bulle et dans le fait d'être aussi beaucoup dans de la réassurance, beaucoup la rassurer par rapport à tous les bruits alentours, etc. Et c'est rigolo de se replonger là-dedans parce que j'ai pas forcément pris le temps avant ce podcast de faire un petit peu un état des lieux, de retracer tout ça depuis sa naissance. Mais là, d'essayer d'y réfléchir, j'ai plein de choses qui me viennent par rapport à certains bruits, certains moments, même quand elle était bébé, où je me dis, ou en tout cas au jour d'aujourd'hui, ah oui, elle avait quand même une certaine sensibilité. Et puis en grandissant, bah, c'est aussi une empathie vraiment très, très grande. Et là, si je prends toujours l'exemple de ma fille aînée, parce que je pense qu'elle l'exprime aussi quand même assez bien au jour d'aujourd'hui. C'est vrai que elle te le dit, elle dit, mais maman, tu sais que je suis sensible et que bah, même quand, je sais pas, il se passe quelque chose pour mes copains ou mes copines, bah, moi, ça me touche parce qu'en gros, c'est comme si c'était elle qui vivait les choses, alors qu'en fait, c'est pas du tout elle, ce sont ses amis, c'est des choses qui appartiennent aux autres. Mais elle le vit comme si c'était elle, en fait. Ses sensations, ses émotions, elles sont décuplées, du coup.
Ouais, je comprends. C'est marrant parce que, du coup, tu dis, ça me fait penser, ta fille met beaucoup de mots, du coup, sur ses sentiments. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu faisais aussi étant enfant ou en grandissant quand tu ne mettais pas encore, justement, le mot hypersensibilité sur ce que tu vivais? Est-ce que toi, tu pouvais en parler? Est-ce que tu étais écoutée sur ça et accompagnée?
Alors, moi, je dirais que non, pas du tout. Dans le sens où, On m'a jamais appris, à parler de mes émotions. On m'a plus appris à les refouler, c'est-à-dire à pas montrer quand t'es triste, à pas être en colère ou pas trop, ou pareil, à pas le montrer non plus. Quand t'as peur, c'est mais non, c'est rien. Enfin voilà, j'ai beaucoup été élevée comme ça, parce que je pense que voilà, c'était comme ça que ça se passait.
Assez générationnel.
Avec les générations d'avant, exactement. Après, moi, c'est vrai qu'en grandissant, il s'est passé plein de choses dans ma vie personnelle, avec notamment ce cancer qui est apparu, des soucis de santé chez mon papa, ma maman qui est décédée alors que j'avais 30 ans. Donc, disons que tous ces événements qui ont été très compliqués, très difficiles et très douloureux ont fait que tes émotions, elles sont, encore plus décuplées quand tu vis des événements tragiques ou compliqués de cette ampleur-là. Et à un moment donné, t'es obligée, on n'est jamais obligé de rien. Mais moi, en tout cas, je me suis sentie obligée de m'écouter et d'essayer de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi pour essayer de le vivre le mieux possible. Moi, je sais que l'émotion la plus compliquée pour moi, c'est vraiment l'émotion de la peur. Donc, peur de perdre mon papa, d'avoir perdu ma maman, etc. Enfin, tous ces moments-là ont été vraiment de très fortes et grandes angoisses pour moi. Donc, j'ai dû apprendre à me connaître pour apprendre à mieux vivre avec tout ce que je ressentais. Pareil également, en devenant maman, tout le bruit, l'agitation, c'est quelque chose qui, très souvent, est vraiment compliqué pour moi aussi. Sauf que quand on est des enfants, forcément, il y a du bruit et de l'agitation dans une maison. Et on ne peut pas demander à nos enfants de rester assis et silencieux toute la journée, tous les jours.
Non.
Donc c'est d'essayer de se connaître pour aussi faire part de ce dont on a besoin à notre entourage pour essayer de trouver un équilibre pour que les besoins de chacun soient entendus et qu'on puisse essayer de vivre au mieux tous ensemble.
Qu'est-ce que tu as mis en place, toi, justement, pour apprendre à connaître tes émotions, apprendre à connaître ta façon de fonctionner à toi et pour l'exprimer à d'autres personnes? Puisque tu dis là, c'est arrivé quand même relativement tard, finalement, dans ta vie, de mettre des mots là-dessus et d'apprendre à vivre avec tout ça. Comment tu l'expliques à ton conjoint, à tes enfants? Comment t'expliques tout ça et comment tu as mis en place des choses?
Alors en fait, je pense que j'ai commencé à mettre des choses en place avant de poser un mot, on va dire, sur l'hypersensibilité, parce que par rapport à ce qu'on disait, par rapport à mon parcours de vie, il y a des choses qui sont arrivées, en gros, peut-être depuis que j'ai 25 ans, exactement. Donc on va dire que j'ai commencé à me renseigner déjà sur des techniques de bien-être. Donc, le yoga, la méditation, pratiquer des respirations, etc. Pour déjà essayer de me recentrer, de partir moins dans mes pensées, moins dans mes émotions, et en tout cas d'être plus dans l'ici, le maintenant, ce que je suis en train de vivre, essayer de ne pas anticiper l'après qui n'existe pas encore, mais d'être vraiment là, maintenant, tout de suite, dans ce que je suis en train de faire. Donc, j'ai déjà commencé à mettre un pied là-dedans, vraiment avec le yoga, la méditation, les respirations. Ensuite, effectivement, j'ai commencé à me renseigner autour des émotions. Alors, à la base, c'était dans le but de pouvoir transmettre ces informations-là à mes filles. Et donc, ça a commencé par différentes lectures, mais vraiment dans un but de les accompagner, elles, dans leurs émotions.
Ouais.
Et ensuite, forcément, quand tu en sais plus sur les émotions, que tu arrives plus à te poser, à t'écouter, à observer en fait ce qui se passe à l'intérieur de toi, que tu t'interroges pour savoir, attends, ok, pourquoi là est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que là j'ai, autant de colère, autant de peur, autant de tristesse? Quel a été l'élément déclencheur? Et au final, quel est le vrai ensuite élément déclencheur? Eh bien, petit à petit, on apprend vraiment à se connaître. Je ne vais pas dire par cœur parce que c'est faux et qu'on apprend toujours de soi, mais en tout cas, on apprend à beaucoup plus se connaître. Et à partir du moment où on se connaît mieux, on sait plus ce dont on a besoin, ce qui nous fait du bien et les situations qui, elles, nous font moins de bien. Et du coup, comment est-ce que j'en parle? J'en parle, de façon très simple. avec mes filles et avec mon mari, c'est tout simplement que bah là, ils savent que moi, le bruit, c'est compliqué pour moi et que ça devient difficile. Et que si ça devient difficile pour moi, j'ai moins de patience, j'ai moins de tolérance, j'ai moins d'empathie, enfin de tout ce qui pourrait, moi, m'aider à être dans une relation apaisée avec eux. Et au final, pour que ça se passe bien, bah, c'est qu'à un moment donné, soit il faut que j'aille m'isoler, soit je vais un petit peu dehors, soit c'est elles qui vont dehors, soit elles vont dans leur chambre. Enfin, voilà, on essaye de toujours trouver un compromis en fonction de ce qu'elles sont en train de faire et moi aussi. Et du coup, c'est essayer, parce que là, pour le coup, on parle de moi, mais de faire ça pour chaque membre de la famille, en fait.
Justement, j'allais te poser un peu une question qui rejoint, parce que bon, c'est vrai que c'est un peu plus facile de pouvoir communiquer et de pouvoir échanger sur ces choses-là quand les enfants sont plus grands, parce que quand il y a l'expression, quand on peut discuter, échanger, c'est plus facile d'avoir une compréhension. Mais alors, quand ils sont plus petits, c'est vrai que c'est plus difficile de pouvoir dire à un tout petit, à un bambin, de dire bah écoute, là maman elle aimerait, elle a besoin de ça ça ça, et que le besoin soit entendu. Est-ce que tu trouves que du coup pour toi c'est plus difficile, c'était plus difficile avant et que ça devient de plus en plus facile, ou alors est-ce que tu avais mis en place des choses spécifiques quand elles étaient plus petites?
En fait, j'ai pas souvenir que ça a été difficile. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir toujours fonctionné pareil, en fait. D'être toujours partie du fait que bah, mes filles, elles comprennent et qu'elles sont dotées d'empathie. Et que si je leur dis avec à la fois mes mots, mon attitude non verbale, enfin mon comportement, le son de ma voix qui change, etc., que là, vraiment, c'est plus possible, ou que là, je suis trop fatiguée, ou que là, je suis malade et que vraiment, il faut qu'elles m'aident et qu'elles arrivent à s'occuper toutes seules, ou d'aller jouer pendant 5 minutes toute seule, sans moi, etc. Enfin, je l'ai toujours verbalisé et j'ai toujours eu le sentiment qu'elles comprenaient et qu'elles s'adaptaient, en fait. Donc, après, est-ce que c'est dû à, justement, leur hypersensibilité, leur empathie ou pas? Enfin, je sais pas trop l'expliquer, mais je suis toujours partie du fait qu'elles étaient en mesure et en capacité de comprendre. Alors, soit vraiment comprendre clairement mes mots et etc., soit de comprendre, encore une fois, au travers de mon attitude, de mon changement de voix, que là, il y avait quelque chose qui était différent pour maman. Et qui était important, et qu'il fallait que bah, ça se passe différemment.
Ah, je comprends bien. Ça résonne beaucoup. Hein. Tout ce que tu dis, ça résonne beaucoup en moi parce que j'ai l'impression qu'on a la même vie. Écoute, pour plein de choses qui sont mises en place, en tout cas sur la communication, sur l'échange et sur cette façon d'exprimer nos besoins. Parce qu'en fait, il y a un moment où, ben, tu me diras si pour toi c'est la même chose, mais en fait, c'est nécessaire et qu'on n'a pas tellement le choix, en fait, que on peut pas faire abstraction de cette sensation, de ce gêne. De cette gêne plutôt, et de parce qu'en fait oui, on devient presque quelqu'un d'autre si nos besoins sont pas respectés et si ça va pas correctement. Et c'est vrai que pour nous à la maison, en tout cas, la communication marche très bien. Alors est-ce que, encore une fois, la même question que toi, est-ce que c'est parce que notre fille est hypersensible aussi ou pas? Ben peut-être pas. En tout cas, en t'écoutant, moi j'ai l'impression que oui, parce que nos situations sont similaires et que elle a une capacité, je pense, à écouter et à comprendre ce que je ressens, qui est peut-être pas la même chez d'autres enfants et d'autres relations, d'autres couples parents-enfants qui ne seraient pas concernés par l'hypersensibilité. En tout cas, moi j'ai pas l'impression. Mais voilà, donc c'est hyper intéressant. Je voudrais revenir sur le côté être maman d'enfants hypersensibles, parce que ça, c'est aussi un sujet qui est intéressant à mon sens. Est-ce que c'est parce que je suis concernée ou pas? Mais je sais pas. Mais parce que je trouve qu'être parent d'enfants hypersensibles, ça demande une grande adaptabilité aussi d'être parent d'enfants hypersensibles, ou en tout cas, enfin, je sais pas, c'est pas, à mon sens, pas contraignant, parce que c'est connaître ses enfants aussi, mais c'est d'être vraiment dans l'empathie et d'être toujours essayer de se mettre à la place de l'enfant. Quelles sont pour toi les difficultés, entre guillemets, majeures dans l'accompagnement d'un enfant hypersensible?
Bah, je dirais c'est surtout ce que ça nous renvoie à nous. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est vraiment ce que ça va me renvoyer quand je les vois en colère, s'énerver, etc. C'est compliqué. En fait, j'ai envie de dire que c'est un peu pile ou face, encore une fois, me concernant. C'est-à-dire que soit ça me fait vriller parce que ben, ça renvoie à des choses vraiment difficiles de mon enfance, de mon vécu, etc. Et là, ça va me demander beaucoup d'efforts pour arriver à garder mon calme quand j'y arrive. Soit, au contraire, c'est très facile dans le sens où c'est comme si leurs émotions, je me les prenais de plein fouet et que je vivais dans mon corps, mais vraiment, ce que elles sont en train de vivre et de ressentir. Et du coup, bah forcément, moi, ça me calme et j'ai de suite ce besoin, en fait, de leur venir en aide parce que vraiment, j'ai l'impression d'être à leur place et de vivre les choses avec la même intensité qu'elles et de la même façon qu'elles. Et forcément, j'ai qu'une envie, c'est de les aider, en fait, à se sentir mieux et surtout de me dire que j'ai pas envie qu'elles restent dans cet état-là trop longtemps, dans le sens ouais. où ben, je sais combien c'est difficile et combien c'est compliqué. Et du coup, ça, en tout cas, quand ça se passe dans ce sens-là, moi, je trouve que c'est vraiment un gros plus. Dans le sens où, ben justement, tu vois, des fois où tu aurais peut-être tendance à vouloir te mettre à crier sur ton enfant ou dire une phrase qui serait pas vraiment cool pour lui à recevoir, et ben en fait, il se passe un petit truc dans ta tête qui fait que tu te mets à sa place et là, tu dis non. Non, tu vois, enfin, je peux pas lui faire ça, en fait. Je peux pas. Parce que c'est un peu aussi comme un boomerang, en fait, qui te transpose à ton enfant et ben, si tu le blesses, c'est comme si tu te blessais à toi. Donc, c'est juste pas possible. Par rapport à ça, en tout cas, moi, je trouve que l'hypersensibilité, c'est sous cet angle-là, c'est une grande chance. Enfin, moi, je sais que je m'estime vraiment chanceuse quand ça se passe dans ce sens-là, parce que je sais que c'est peut-être que pour un autre parent, ben, ce serait aller jusqu'au cri ou autre chose. Et que ben, moi, justement, ça m'alerte sur le fait de attention, faut pas que ça aille plus loin parce que là, ça va lui faire encore plus de mal. Et j'ai cette petite alerte qui parfois se met en place.
L'hypersensibilité aussi, c'est des émotions certes négatives exacerbées, mais c'est aussi des émotions positives qui le sont, avec des moments de joie, avec des moments d'amour qui sont encore plus intenses. Est-ce que tu aurais des exemples comme ça qui pourraient illustrer ces moments positifs qui sont d'une intensité plus forte?
Eh ben, en fait, il y a des moments où, effectivement, quand on est très contente, je sais pas, qu'il s'est passé quelque chose d'un peu extraordinaire. Alors, j'en sais rien si, par exemple, elle savait pas faire du vélo et qu'elle se met à faire du vélo. Ou moi, le jour où la maison d'édition a accepté, du coup, d'écrire mon livre. Ou il y en a une qui revient de l'école avec une super nouvelle. Bah, du coup, on peut se mettre à vraiment à crier toutes les trois, mais à crier notre joie. Enfin, c'est des fois, je me dis, on est complètement folle. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais en même temps, bah, voilà, c'est la joie qui est là et c'est comme ça qu'on a envie de l'exprimer et on se met à sauter partout, à crier, à se prendre dans les bras et puis voilà, à être contente. Mais après, ça peut être aussi de se mettre à pleurer. Alors ça, je me dis peut-être que ça arrive à bon nombre de mamans, mais tu vois, quand ma fille a fait son gala là de danse, c'était le tout premier au mois de juin, j'ai pleuré comme une madeleine, je criais dans le public. À la fin, quand je l'ai retrouvée, donc c'était une heure après, je pleurais encore. Enfin,
c'est trop beau. Non, mais c'est super mignon.
Voilà, c'est aussi tout ça, ouais.
Mais c'est drôle ce que tu dis parce que ça résonne. Enfin, expérience, attention, exemple personnel. La semaine dernière, j'ai emmené ma fille à Disneyland. C'est la première fois. Et alors, Disneyland, c'est une expérience hein, quand t'es hypersensible. C'est-à-dire qu'en plus, c'est Disneyland en période d'Halloween. Donc, c'est Disneyland, c'était peut-être pas le bon moment, mais j'avais pas forcément anticipé non plus. Je pense que c'est un peu de ma faute. Donc, il y a eu des moments chez elle d'extrême terreur, elle a eu peur de deux choses qui paraissent, et quand tu regardes les gens autour et les enfants autour qui sont complètement insignifiantes pour les autres, mais qui l'ont effrayée, un dragon qui passe de loin, mais tu sais, un faux dragon, là, un char, ça lui montre une angoisse et une peur terrible, alors que d'autres enfants sont là, ouais, c'est trop génial. Et en fait, on a fait l'attraction des poupées, là, c'est It's a Small World. Et en fait, moi, j'avais peur qu'elle ait peur. Bien sûr, parce qu'on a peur toujours. Et en fait, pas du tout. Elle a été complètement émerveillée et elle avait ses paillettes dans les yeux en étant hyper, enfin, dans une joie et dans une émotion intense qui m'ont redonné une émotion. Mais moi, j'aurais pu, enfin, les larmes étaient là de la voir, en fait, comme ça et de ressentir ça. Et ça, quand je l'ai expliqué après, quand j'en ai parlé après, c'est vrai qu'on m'a dit, non, mais ça va, quoi. Enfin, c'est juste une attraction en Disneyland non plus. Enfin, faut pas. Voilà. Mais en même temps, chez moi, ça a réveillé une telle émotion de l'avoir émerveillée comme ça. Ça a été un truc de fou. Alors que c'est vrai que pour d'autres personnes, ça pourrait être complètement insignifiant. Et alors que, bon, moi, j'assume complètement hein, le fait que j'ai été vraiment, je sais pas si c'est submergé, mais vraiment envahie d'une émotion très forte que. Là, rien que d'en reparler, je la ressens encore tellement elle a été forte, ça m'a pris comme ça de la voir aussi heureuse. Et elle, je sais que dans sa façon de l'exprimer, dans sa façon de le raconter après, c'était pareil en fait. Et ça, c'est des moments qui sont hyper précieux parce qu'en fait, c'est assez dans ces moments-là que je me dis, mais quelle chance en fait. Quelle chance de ressentir autant de choses, quelle chance d'avoir cette palette d'émotions encore plus vive que d'autres n'ont pas la chance de connaître finalement. Et c'est vrai que quand c'est dans le négatif, c'est très très négatif, mais quand c'est dans le positif comme ça, c'est tellement chouette, tellement beau. Mais c'est difficile aussi par contre à exprimer à d'autres personnes et d'expliquer à d'autres personnes qui seraient pas concernées par l'hypersensibilité parce qu'on est vrai, peut-être un peu vu comme des personnes un peu cheloues quand même. Tu ne trouves pas?
Je sais pas, peut-être comme des personnes parfois un peu à part, oui, je sais pas trop. J'avoue que moi, au jour d'aujourd'hui, j'essaye vraiment de faire abstraction par rapport à ce qu'on pourrait penser de ce qui serait lié à mon hypersensibilité. Dans le sens où, effectivement, moi, je pense que c'est une chance. Même si parfois, alors moi je parle pas forcément d'émotions positives ou négatives, mais je vais parler plutôt d'agréable ou de désagréable. Mais c'est vrai que oui, quand c'est désagréable et que tu es dans le creux de la vague en train de vivre cette émotion désagréable, je me dis que c'est un fardeau. mais quand je suis pas au plein creux de la vague, voilà, et que tout va bien ou que tout est normal ou que effectivement je suis dans l'excitation et l'euphorie, je me dis que c'est quand même une grande chance. Et après, je pense que voilà, enfin, il y a des personnes aussi sans pour autant dire qu'elles seraient hypersensibles, mais comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que comme on ne nous a pas appris à vivre nos émotions en fait de façon toute simple, il y en a qui refoulent certaines émotions, qui ont du mal à les exprimer vraiment comme à l'intérieur d'eux ils aimeraient les exprimer. Alors parfois c'est inconscient, mais parfois c'est un peu plus conscient. Et du coup, bah ils ont du mal à mesurer. Pour le coup, l'écart, on va dire, entre bah, peut-être ces personnes qui vont avoir tendance à le refouler et nous qui allons être vraiment dans la pleine expression de notre émotion et en plus de notre émotion de personne hypersensible.
Est-ce que tu dirais, et là je vais revenir sur le fait d'être parent d'enfants hypersensibles, est-ce que tu as mis en place des choses spécifiques dans ton quotidien, je pense notamment par exemple à l'école, dans ton quotidien pour t'adapter à l'hypersensibilité de tes enfants?
Alors je dirais que ce qui nous aide beaucoup, bah déjà c'est tout ce qui est communication non violente et vraiment... entre guillemets, se servir de notre empathie à chacun. Donc, la communication non violente, parce que bah, ça nous permet d'exprimer nos propres besoins, comme on le disait tout à l'heure, sans pour autant remettre la faute sur l'autre, mais vraiment juste parler de nous et de là ce qui se passe pour nous à un instant T. Donc, c'est vraiment déjà un outil que nous, on essaye de transmettre et de donner aux filles. Alors après, je ne sais pas si on y arrive vraiment, mais en tout cas, on essaye. Pour que elles aussi, à leur tour, tu vois, bah, qu'elles soient à l'école ou ailleurs, qu'elles puissent être en mesure d'exprimer ce qui se passe pour elles, ce qui est difficile pour elles, s'il y a quelque chose de difficile, etc. qu'elle puisse justement l'exprimer verbalement aux adultes qui sont en charge d'elle sur ces temps-là ou sur ces journées-là. Après, on essaye aussi de beaucoup effectivement travailler sur l'empathie parce que ben voilà, parfois il se passe certaines choses entre les élèves qui sont pas forcément respectueuses de tout le monde. Et du coup, ben, cette empathie, elle va essayer de venir mettre en lumière justement ce côté qui serait pas respectueux pour l'un ou l'autre des élèves. Et parfois, c'est pas forcément sur celui auquel on aurait pensé qu'il se passe quelque chose, mais bien sur un autre. Donc voilà, pour essayer vraiment de travailler la relation avec l'autre. Ensuite, je dirais que nous, on a prévenu les maîtresses aussi. Voilà, enfin, elles le savent que nous, nos filles, elles sont très sensibles et qu'effectivement, quand il se passe quelque chose ou qu'un enfant se fait punir, parce que dans l'une des deux écoles, c'est ce qui se passe, c'est un peu comme si c'était notre fille qui était punie ou s'il y a une décision qui est prise mais qui est injuste, comme parfois des punitions collectives.
Ça existe encore, ça ?
Ça existe. Donc, quand il y a des punitions collectives, je sais que notre fille, elle rentre et là, elle est... Enfin, elle a toujours cette colère, en fait, parce que bah, y a son intégrité personnelle qui a été atteinte, parce qu'elle a été privée de quelque chose, alors que pour elle, elle n'aurait pas dû. C'est pas elle qui était concernée par ce qui s'est passé. Et voilà, et cette injustice, elle est là, elle est présente et elle reste. Parce que quand elle n'est pas entendue et qu'elle n'est pas résolue, eh ben, cette émotion, elle reste. Donc voilà, c'est surtout tout ça qu'on essaye de travailler, effectivement, entre l'école et la maison.
Est-ce que tu as déjà eu des réactions négatives? Là, tu disais que tu en parlais aux professeurs, aux personnes qui encadrent les enfants. Est-ce que tu as déjà eu des réactions négatives un petit peu, tu vois, en mode « Oh, elle exagère, c'est une mère poule qui couvre trop ses enfants ». Enfin, vraiment dans le stéréotype, mais pourquoi pas? Enfin, donc, tu parles de punition collective, donc moi, j'ai un stéréotype en tête. Donc, voilà. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de réaction?
Alors, au jour d'aujourd'hui, non, vraiment pas. Donc, nous, on a une de nos filles qui est encore en école Montessori. De ce côté-là, il y a absolument, j'ai envie de dire, aucun souci. En tout cas, pour l'instant, jusque-là, ils ont toujours été à l'écoute. Et notre deuxième fille, qui, elle, n'est plus en école Montessori depuis un peu plus d'un an. Là, quand on a repris, puisqu'elle a changé de maîtresse cette année et qu'on l'a repris avec elle, on y était tous les deux avec mon mari. Alors, est-ce que c'est ça ou pas? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ça s'est bien passé. On n'a pas ressenti ça. Maintenant, est-ce que pour autant la maîtresse l'a pas pensé? Tu vois, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle nous a pas fait ressentir ça.
Parce que tu vois, moi, j'avoue que ça me fait peur. Tu vois, de dire, enfin, tu vois, pour le coup, moi, j'en ai pas parlé à l'institutrice de ma fille parce que ça me faisait peur. J'avais pas envie qu'elle soit. Je sais pas qu'elle pense que ce soit, enfin, peut-être que j'en fais trop. Bah, après, peut-être qu'il y a un côté d'histoire personnelle, hein, cette histoire de dire qu'on en fait trop, mais parce que je pense que c'est propre aussi à ce que je suis. Mais ouais, j'ai pas osé le faire. Et peut-être qu'en fait, je devrais, finalement, c'est inspirant de t'entendre sur ce sujet, de pas hésiter à dire, bah, en fait, non, c'est comme ça, c'est sa particularité, elle est comme ça, et c'est pas moi qui en fais trop, en fait, et c'est pas elle qui en fait trop, elle est juste, c'est juste sa façon de vivre les choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi, je n'ose pas faire.
En fait, alors, moi, pour expliquer un petit peu pourquoi on le fait, alors déjà, bon, bah, parce que je pense que peut-être que je transpose aussi un petit peu avec mon métier de puéricultrice quand je travaillais notamment en structure petite enfance, dans le sens où plus on en sait sur l'enfant, sur son fonctionnement, ses habitudes, etc., et plus c'est, entre guillemets, facile de l'intégrer, de trouver des choses qui lui plaisent, d'avoir une attitude en tout cas qui va lui permettre de se sentir bien et en sécurité. Donc c'est vrai que moi j'ai un peu cette vision là de travailler ensemble les mains dans la main, parents et professionnels. Et du coup bon bah là elles sont à l'école, elles sont plus à la crèche. Donc c'est d'essayer de reproduire ça avec la maîtresse et de se dire que voilà, je peux faire confiance à cette maîtresse, qu'elle entende ce qui se passe pour notre fille du coup. En fonction de telle ou telle situation, pour peut-être aussi qu'elle soit attentive et vigilante, elle, dans son attitude et dans sa façon de faire. Et après, je me dis peut-être que ça sème aussi un petit peu des graines, parce que, ben voilà, nous, on a parlé de notre fille, mais peut-être que d'autres parents, effectivement, n'ont pas osé parler de leurs enfants, mais qui fonctionnent comme notre fille également. et peut-être qu'elle va essayer de faire un peu plus attention en classe complète ou devant certains enfants, etc., qu'elle aurait pu détecter avec des similitudes de traits de personnalité de notre fille. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y aura rien de tout ça, hein, j'en sais rien. Mais c'est vrai que, enfin, moi, j'ai aucun souci avec le fait qu'elle soit hypersensible. Enfin, tu vois, je me dis pas qu'elle sera la risée ou quoi que ce soit, ni de l'école, ni de la maîtresse. Je parle juste du fait que, ben, elle est comme ça et qu'au contraire, c'est une chance parce que je pense qu'elle peut construire des relations fabuleuses avec ses camarades comme avec les adultes de l'école. Et du coup, mieux on se connaît et mieux ça se passe. Voilà.
Ouais. Mais je pense que tu vois, ça, c'est peut-être propre au cheminement du parent. Hein, du coup, je pense qu'il y a de ça aussi de peut-être que je suis pas encore dans la totale c'est quoi l'adjectif pour dire assumer. Bon ouais, j'assume peut-être pas encore totalement cette partie-là et donc du coup, j'ai un peu de mal à l'exprimer pour elle mais c'est en chemin et je pense que aussi peut-être que des parents qui nous écouteront qui seront concernés aussi par ça pour peut-être se reconnaître et dans ta façon de faire et enfin dans la mienne mais dans mon étape de cheminement en tout cas au quotidien, est-ce que tu mets en place, tu adaptes en fait certaines choses à tes filles ou alors pas du tout. Je pense à ça par exemple et je connais déjà la réponse hein, parce que je pense à un sujet précis. Il y a quelques temps, tu as fait une story sur Instagram où tu parlais des films que tu choisissais pour tes filles parce que il y avait certains films qu'elles ne pouvaient pas regarder parce que c'était trop difficile pour elles. Je suis aussi moi concernée par ce sujet et c'est très, on peut pas montrer n'importe quoi aux enfants et ça peut être problématique à l'école parce que pour le coup, bon après ma fille est en maternelle, donc voilà. Mais je sais très bien que j'habite dans une région où il pleut beaucoup et parfois à certaines récréations, en tout cas l'année dernière, mais cette année aussi, quand il pleut très très fort et quand il fait très très froid, les enfants ne sortent pas et on leur met un dessin animé. Et pour restituer le contexte, l'année dernière, c'est arrivé quasiment à chaque fois qu'ils ont mis un épisode de dessin animé, que ce soit trop violent pour ma fille et qu'en fait elle se mette à pleurer et qu'elle demande à faire autre chose. Alors on a eu de la chance dans le sens où l'institutrice a complètement accompagné ça, elle n'a pas forcé à regarder et lui a proposé d'autres activités, mais c'est vrai qu'en fait, on ne pense pas forcément à ces choses-là parce que c'est censé être des programmes destinés aux enfants et faits pour les enfants, alors qu'en fait, parfois, ils sont juste très, très violents.
Alors là, tu vas me chauffer sur un sujet.
Mais allons-y, moi, ça m'intéresse, j'adore.
Là, je peux parler pendant une heure, rien que de ça.
Eh ben allons-y.
Je sais même pas par où commencer. Bon alors déjà, effectivement, on sélectionne et on choisit avec mon mari, avec beaucoup d'attention, les films ou dessins animés qu'on peut leur montrer. Alors c'est surtout des dessins animés, donc déjà pour reposer le contexte, pardon, en tout cas de chez nous et de notre famille. Je dis pas que du tout que c'est ce qu'il faut faire. Je vous explique juste chez nous comment ça se passe. Donc déjà, on n'a pas de télé. Donc, il n'y a pas de télé. Et donc, quand on veut regarder quelque chose, c'est sur l'ordinateur ou la tablette, des programmes, du coup, qu'on a choisis parce qu'elles n'ont pas, elles vont pas aller utiliser ni l'ordinateur ni la tablette sans nous. Donc, c'est vraiment très cadré. Et en général, c'est une fois par semaine, le vendredi soir. Et c'est quelque chose qu'on regarde vraiment tous les quatre ensemble. Donc, effectivement, il y a pas mal de films, films, dessins animés, qui sont censés être donc pour les enfants, mais qui ne sont pas du tout adaptés pour nos filles, en tout cas, dans le sens où, effectivement, ça va vite leur faire peur. Donc, nous, on a trouvé un site internet, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça doit être un truc du style film pour enfants ou quelque chose comme ça, où en fait, on rentre le titre du film et ça nous dit à partir de quel âge c'est, ça nous dit les moments difficiles du film, s'il y a de la violence, quel passage, enfin bon, bref. Donc en général, nous, c'est pas compliqué, donc elles ont 6 et 9 ans et on choisit jusqu'à 5 ans, quelque chose comme ça. Ça suffit en tout cas par rapport aux émotions. Pour revenir sur le fait de ce sont des films ou dessins animés pour enfants et donc normalement censés être OK pour eux. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec ça dans le sens où il y a plein de films qu'on a eu un peu regardés, etc. avec mon mari parce qu'on essaye de les pré-visualiser avant de leur montrer et où on se dit « mais c'est horrible !» Tu vois, on le regarde et on se dit « mais enfin, on montre ça aux enfants, mais en fait, il n'y a que de la guerre, de la bataille, de l'irrespect, du... » Et quand on en parle avec d'autres gens, ils nous disent « bah non, moi, je l'ai trouvé bien et tout. » Et puis, nous, on se dit « mais non, mais c'est horrible. » Et c'est vrai que moi, je pense que tout ce qui est fait pour les enfants n'est pas fait pour les enfants. Voilà, que ce soit des comptines, franchement, il y a des comptines, quand on décortique les paroles, c'est horrible.
Mais tu sais qu'on s'en rend parfois compte bien après.
Mais oui, non, mais d'enseigner ça à des enfants de, des fois de 3-4 ans, parce que les comptines, on les commence tôt, voilà. Tout ce qui est, alors attention, je vais peut-être faire polémique, mais tout ce qui est livre, histoire pour enfants avec des loups, des sorcières, qu'on lit dès la crèche, qu'on lit à l'école, et où on entend, mais oui, mais les enfants, ils adorent avoir peur. Oui, ils adorent avoir peur. Mais ensuite, il y en a combien qui font des cauchemars, qui veulent pas dormir dans le noir? Ça, enfin, nous, je sais que je suis persuadée qu'il y a un lien, mais elles n'ont jamais fait de cauchemars. Jamais de terreur nocturne, jamais de cauchemars, jamais de peur de s'endormir dans le noir ou que sais-je. Et elles n'ont jamais eu d'histoire de loups, de sorcières ou de que sais-je avant bien l'âge de 5-6 ans. Il faut savoir que les enfants, mais je pense que c'est idem pour les adultes, hein, mais on dit toujours les enfants jusqu'à 6 ans n'ont pas la notion de différence entre réel et imaginaire. Et que pour eux, en fait, en gros, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils lisent, ils le prennent pour argent comptant. Maintenant, un adulte, enfin moi personnellement, demain tu me montres un film d'horreur, je peux te dire que pendant plusieurs soirs, je vais entendre des bruits et je vais voir des choses dans ma maison une fois que la nuit va tomber, tu vois. Et pourtant, je suis adulte et je sais que ce que j'ai vu, ça n'existe pas, blablabla. Donc, pour un enfant, et encore plus un enfant hypersensible, ben, il y a tous ses sens qui sont décuplés, il y a ces images qui lui sont imposées, hein, qu'il ne choisit pas de recevoir, contrairement à un livre, on va dire, sans images qu'on lui lirait, où là, il peut s'imaginer l'histoire dans sa tête. Donc là, on a vraiment toutes ces images qui lui arrivent de plein fouet, le son, la musique qui va bien hein, pour te déclencher les émotions. Des fois, on n'a pas besoin de ça en tant qu'hypersensible. Et du coup, ben, ça vient rendre les choses encore plus réelles, encore plus vivantes, et ça peut être effectivement compliqué. Et oui, dans certaines écoles, effectivement, de temps en temps, il y a des films qui sont montrés. Moi, je sais que j'ai ma fille, mon aînée, qui est déjà revenue une fois en pleurs parce qu'elle a vu quelque chose qui était très compliqué. Là, pas plus tard que la semaine dernière, elle prend des cours de théâtre. Visiblement, le prof les a mis dans le noir. Il leur a raconté une histoire en lien avec Halloween. Enfin, ça... Moi, je me dis comment c'est possible de faire des choses comme ça sans se soucier de la sensibilité des enfants que l'on a en charge avant de...
Et sans leur demander leur accord, en fait. Leur demander s'ils étaient d'accord d'être dans le noir et s'ils sont d'accord d'entendre quelque chose qui pourrait les effrayer.
Alors, même leur accord, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont en groupe, si tout le monde dit « Ah oui !» Tu vois, ouais. Ils vont pas oser dire « Ah bah non !» Et puis tant qu'ils l'ont pas vécu, ils savent pas vraiment ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'ils peuvent dire « Oui ouais. !» Mais au final, ils savent pas à quoi s'attendre. Ils ont encore jamais vécu la situation. Donc, ils mesurent pas l'importance et la hauteur des émotions qu'ils vont ressentir suite à ce qu'on va leur faire visionner ou la scène qu'on va leur faire vivre. Et ça, pour moi, c'est vraiment du rôle de l'adulte encadrant, et encore plus comme ça quand c'est dans notre métier, en fait, d'encadrer les enfants, de les accompagner, etc., et qu'on les a à notre charge, d'y être attentif et de faire attention et de ne pas faire n'importe quoi et de prendre en compte tous les enfants. Et si dans le groupe, on en a un qui pourrait avoir peur, eh ben on fait autre chose, tant pis. Et ils se feront peur chacun chez eux. Enfin, donc, effectivement, on sélectionne, tout ça pour revenir au sujet. On sélectionne.
Ah non, mais c'est passionnant.
Non, mais t'as vu, je trouve ça génial. J'ai fait court.
Propre, efficace.
On sélectionne, voilà, vraiment les films. Même si, là, l'autre jour, on a eu un raté, vendredi soir, où là, c'est mon mari qui a voulu montrer un dessin animé que visiblement toutes les copines de ma seconde fille, donc qui a 6 ans, l'ont vu. C'était horrible. Voilà.
C'était quoi?
Si je dis pas de bêtises, il faudrait que je vérifie. Je crois que c'était Utopia. C'est ça,
Pierre.
Je sais pas.
Je sais pas
si c'est ça
ou
quelque chose
ça
comme
rien.
Ça. Il faudrait que je regarde, mais
ça raconte quoi?
Utopia, ça raconte quoi? Je sais plus si c'était le nom du dessin animé. J'ai un doute parce que c'est lui qui l'a regardé. Ouais. Mais en fait, c'est une petite lapine, mais c'est peut-être pas Utopia, je sais plus. En gros, c'est une petite lapine.
Ah, c'est
lapine.
Pas Zootopie, c'est Zootopie, c'est ça?
Ah, peut-être,
c'est
je sais pas,
Disney.
Qui veut devenir
c'est
policier.
Disney. Ouais, oui, c'est ça. C'est Zootopie. Ah non, mais il fait peur, celui-là. il fait très peur. Déjà, parce que je l'ai lu, je l'ai jamais vu. Hein. Mais j'ai, tu sais, les histoires 5 minutes pour s'endormir. Et rien que ça, c'est difficile à lire. Et je trouve ça vraiment dur. Alors, j'ose même pas imaginer le film.
Bah là, je trouvais plein de choses très dures. Déjà, notre seconde fille, elle a pleuré, je crois, même pas 10 minutes après le début du film, parce qu'il y a un des renards qui s'attaque à la petite lapine. Il lui dit des choses pas très agréables. Et il la griffe au visage, donc il la tape. Tu vois, elle a du sang qui coule un petit peu sur le visage. Voilà, il la violente. Et pour elle, c'était trop, en fait, de voir ça. C'était pas possible, en fait. C'était injuste. Enfin, c'était pas OK, c'était pas correct. Et puis, il n'y avait personne pour la défendre, tu vois. Enfin, personne pour prendre soin d'elle. Donc, ça aussi, c'est tout le message qu'il y a derrière. Alors, même si on se dit qu'au final, elle en fait une force, elle se relève et elle construit sa vie, etc. Mais il y a quand même ce sentiment d'injustice. Toutes les paroles de la petite lapine, des parents de la lapine envers la lapine, et qui lui disent... En gros, bah, c'est bien d'avoir des rêves, mais ne va pas les réaliser et reste avec nous. Enfin, tu vois, même si, encore une fois, au sein du film, il y a d'autres choses aussi positives, bah, tous ces mots-là, ils sont dits, ils sont entendus, ils se sont peut-être ancrés chez certains enfants. Enfin, ouais. Et ça, c'est vraiment qu'une infime partie assez légère et light du film. Donc, non, ça a été un carnage et au final on a passé plein de scènes et plein de moments et ça a fini que ça a été un plaisir pour aucun de nous quatre au final. Donc on essaye vraiment de faire attention.
Non mais complètement. Mais tu vois, c'est quand même fou parce que j'ai l'impression en tout cas que parce que ce sont des dessins animés que les personnages sont pas faits de chair et sont pas réels que ben du coup l'impact est pas le même, tu vois, que c'est qu'on se rend compte que ça n'existe pas. Sauf qu'en fait, non, c'est pas vrai. Enfin, l'histoire reste là. Moi, je trouve que c'est très fort, mais les musiques, les chansons donnent de l'émotion. Les films donnent de l'émotion. Un spectacle vivant va donner de l'émotion. Et en fait, tout ça, ça donne peut-être parfois des émotions agréables, pour reprendre ta façon de dire les choses et que j'apprécie particulièrement, des émotions agréables, mais certes aussi très, très désagréables et qui peuvent traumatiser parce qu'en fait, il y a des souvenirs, moi, qui me reviennent de films comme ça que j'ai vus quand j'étais petite où tu dis, mais en fait, typiquement, Mulan, genre, son but dans la vie à début, c'est, enfin, il faut qu'elle se marie pour faire la fierté de sa famille. Et comme ça marche pas, sa famille n'est pas fière, il faut qu'elle frôle la mort et qu'elle sauve un pays entier pour qu'on soit fière d'elle, quand même. Enfin, non, en fait, même si c'est un dessin animé et même si c'est mis comme une fiction, c'est hyper violent à prendre dans la figure, en fait. Et on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Cet été, nous sommes allés voir Pat Patrouille, le film, au cinéma. On était très contents, première sortie cinéma, avec le casque anti-bruit, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut aussi penser, c'est que un enfant, en tout cas, pas généraliser parce que chaque enfant est différent, mais en tout cas, mon enfant à moi, hypersensible, est très sensible au bruit. Et le casque anti-bruit, on l'a quasiment tout le temps avec nous, parce qu'en fait, depuis qu'elle est bébé, hein, d'ailleurs, parce qu'en fait, les bruits sont trop violents et le cinéma, le son est trop fort, en fait. Donc, on lui avait son casque anti-bruit. Et pourtant, Pat Patrouille, je crois que c'est quelque chose qui est considéré pour les 3 ans et plus. Donc, quand même, quelque chose d'assez petit. Mais il y a des scènes dans ce film qui sont vraiment très violentes, je trouve. Et qui moi aussi m'ont touchée. Moi j'ai pleuré devant Pat Patrouille personnellement, mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Quand je le dis en général, on se moque de moi. Mais non, j'ai pleuré devant Pat Patrouille parce que c'est dur émotionnellement, je trouve, à apprendre qu'il y a des choses qui sont difficiles et qui sont pas forcément adaptées. Déjà qu'ils le sont pas forcément adaptées à un adulte qui est certes hypersensible, mais un adulte quand même, à un enfant à partir de 3 ans en fait. Et c'est pas parce que c'est des petits chiots, c'est pas parce que c'est du dessin animé que c'est OK, en fait, et qu'on peut pas prendre en compte cet impact-là. Et en tout cas, tu vois, c'est un sujet, moi aussi, on pourrait partir sur un épisode rien que sur ça. Enfin, on pourrait en faire faire quelque chose d'assez fort, parce que il y a beaucoup de choses qui sont pensées pour les enfants qui sont pas vraiment... qui sont vues avec un œil d'adulte, déjà, et pas forcément... l'adulte pense qu'il sait ce qu'il faut pour les enfants, et c'est pas forcément toujours vrai. Enfin, c'est même rarement vrai. D'ailleurs. Mais du coup, ouais, je te rejoins là-dessus sur les produits dits culturels qui peuvent déclencher des émotions très fortes et qui demandent une adaptation de tous les instants parce qu'en fait, Ben, ne serait-ce que, par exemple, ton enfant va à un goûter d'anniversaire, s'il y a quelqu'un qui est déguisé, s'il y a une activité de prévue, en fait, si tu le sais pas, ben, en fait, ton enfant peut se retrouver confronté à des choses qu'il n'est pas prêt à recevoir, quoi. Et je trouve ça hyper difficile, moi, personnellement. Ce côté-là, je trouve ça très difficile parce que autant moi le gérer, je trouve ça, ben voilà, je connais mon enfant, on sait comment ça marche. Mais à partir du moment où l'enfant va dans un monde extérieur où on n'est pas forcément là, là, je trouve ça vraiment très difficile.
Mais c'est pour ça aussi qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec l'exemple de la maîtresse. C'est pour ça aussi que c'est important de transmettre toutes ces informations-là concernant les spécificités de notre enfant à l'adulte qui va être responsable de notre enfant quand on ne sera pas là. Parce que s'il n'a pas toutes les informations, il ne peut pas le deviner et pas le mesurer et parfois pas forcément le comprendre et donc pas pouvoir réajuster comme si il l'avait su. C'est-à-dire que bah, peut-être qu'il va se dire bah, « Tiens, je ne comprends pas pourquoi cet enfant se met d'un coup à pleurer alors que si le parent a pris le temps d'expliquer aux parents qui accueillent pour le goûter, etc., les spécificités de notre enfant, bah, peut-être qu'il sera plus en tout cas en capacité de l'accompagner aussi dans ses émotions et de le comprendre parce qu'il aura une explication. Même s'il ne connaît pas bien l'hypersensibilité, même si lui-même n'est pas hypersensible, etc., déjà, il aura les connaissances sur notre enfant qui vont faire que bah, il pourra mettre des stratégies en place pour l'aider à se sentir bien ou à se sentir mieux. Ouais.
Ouais. Pour terminer, Nadège, j'aimerais, est-ce que tu aurais, par exemple, des petits conseils, allez, disons des conseils pratiques pour des parents qui seraient complètement désemparés et qui connaîtraient pas, enfin, qui le vivraient peut-être pas eux dans leur corps, cette hypersensibilité, des petites choses à mettre en place quand on a un enfant qui est hypersensible?
Alors moi, là, tout de suite, je pense à la respiration. C'est vraiment, d'apprendre à respirer et d'apprendre à notre enfant à respirer. Je pense que quelle que soit l'émotion qu'on soit en train de vivre ou la situation qu'on est en train de vivre, c'est vraiment un outil, enfin une ressource qui est facile, qui ne demande aucun matériel, qui ne demande pas d'argent, etc., qu'on peut mettre en place n'importe où et qui peut désamorcer une situation qui pourrait être compliquée, que ce soit pour nous, parents, ou pour les enfants. Alors, bah, bien évidemment, les respirations, c'est voilà, faut se renseigner sur différents exercices, essayer de voir ce qui nous plaît, ce qu'on arrive facilement à faire, pour ensuite pouvoir le proposer à notre enfant, bah, sous forme de jeu. Ça peut être, tiens, avant de lire l'histoire du soir, tiens, on va respirer ensemble, ou j'en sais rien, on va souffler sur le moulin avant, au départ tout doucement, et puis ensuite de plus en plus vite. Ou on va souffler sur un miroir pour faire de la buée. Voilà, au départ, on peut se servir comme ça de petits supports pour que ça rende la respiration un peu plus concrète et qu'on soit vraiment dans la conscience du souffle. Et ensuite, on arrivera à faire encore d'autres exercices et à pouvoir, bah, pourquoi pas, supprimer tous ces petits supports et le faire bah, quand on est assis dans son lit, quand on est assis à son bureau en classe et qu'il y a un devoir et que ça devient stressant, ou que justement on est chez un copain, chez une copine et qu'il y a quelque chose d'un peu compliqué, etc. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire ensemble ou séparément, ou que nous adultes ou que les enfants.
Trop bien. Bah merci en tout cas. Merci beaucoup, Nadège, pour cet échange. Si on veut suivre ton travail, si on veut te retrouver, toi, par où ça se passe? Donne-nous toutes les possibilités, toutes les façons d'entrer, d'entrer dans ton univers, de découvrir un peu tout ce que tu fais. Dis-nous tout.
Alors, tout simplement, bah, en tapant Nadège Pétrel ou Un amour au naturel. Donc, sur Instagram, c'est vraiment Un amour au naturel. Sur YouTube, c'est l'un ou l'autre. Et sur Facebook, c'est l'un ou l'autre aussi. Et puis, il y a le site internet, donc unamouraunaturel.com. Et après, on peut se retrouver donc en région toulousaine pour des ateliers, pour des consultations aussi, si besoin, entre parents et moi. Voilà.
Et en librairie aussi.
Et en librairie, bien évidemment, avec le livre « Partager le meilleur avec mon enfant ».
Super. Mais en tout cas, merci beaucoup, Nadège. C'était trop chouette d'échanger avec toi. J'ai passé un très bon moment. Et merci. Puis, ben, on se retrouve bientôt.
Merci beaucoup.
J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast.
Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, faire en sorte que Prenons un Café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un Café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve vendredi pour un épisode solo dans lequel je décrypterai une expérience de parentalité avec humour et sincérité. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.